Radio Canyon revient sur la sale routine du maintien de l'ordre ce soir, suite au verdict du procès des policiers qui ont assassiné Adel Hakim Hajimi en mai 2008.
En décembre, on allait à Saint-Priest avec un de mes amis. En descendant, j'avais une cigarette. J'avais pris un ticket sur lequel il restait 20 minutes. Mon ami avait la carte de transport. Dans la main, j'avais une cigarette allumée, mais il n'en restait pas beaucoup. En haut, j'ai pensé à la jeter. Je me suis dit que j'allais la finir. On est descendu dans la station avec mon ami. On a vu trois personnes assises à côté. Je suis passé à côté d'eux. L'un d'eux me dit : ne fume pas, je suis malade, ça me dérange. J'ai dit : d'accord, excusez-moi, je me suis éloigné de quelques mètres parce qu'il était malade pour ne pas le déranger. Ensuite, il me dit : éteins ta cigarette. Je lui ai demandé pourquoi. Tu m'as dit que tu es malade. Je t'ai respecté. Je me suis éloigné. C'est la cigarette le problème, non ? Il se lève et me dit : tu éteins ta cigarette. Je te dis : il vient sur moi. Pour qu'on en finisse, j'ai jeté ma cigarette. Il l'a écrasé lui-même. Il me dit : si tu veux venir en France, tu dois te plier aux règles. Tu dois respecter la loi. Sinon, tu ne restes pas en France, tu pars. Quand les étrangers vous venez, vous créez toujours des problèmes. J'ai regardé l'homme et je lui ai dit : c'est quoi votre problème ? Qu'est-ce que vous voulez ? Le problème, c'est la cigarette ? Si c'est la cigarette, vous pouvez appeler la police au pire. Vous leur dites : il fume ici. Tu ne peux pas me demander pourquoi tu es venu, pourquoi ici, qu'est-ce que tu fais. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je
ne
t'écoute pas, il me répond, en rigolant. Le métro est arrivé, je me suis dit : je monte dans le métro. Je l'ai monté dedans, quand il me dit derrière : tu vas dégager en Turquie comme tu montes dans le métro. Fous le camp. Je suis monté, je me suis retourné, j'étais énervé. J'ai enlevé ma veste, je lui ai dit : tu cherches des problèmes ? Ça va être moi ton plus grand problème. Vous êtes des fascistes, trois fascistes contre un kurde. Je peux rien faire, je parle pas bien le français. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. J'avais pas complètement enlevé la veste. Le même se lève et me dit : tu cherches les problèmes ? J'ai fumé une cigarette seulement, c'est toi qui cherches. C'est pas à propos de la cigarette. Il m'a encore dit : vous tous les étrangers, vous venez ici, vous créez toujours des problèmes. Vous respectez pas les lois françaises. Casse-toi de France. J'ai compris tout ça à 100%, j'ai répondu. C'est des fascistes, j'ai pensé, jusqu'à maintenant. Des fascistes, j'en ai vu trop en Turquie. Il y a beaucoup d'injustices contre nous, ils font beaucoup contre nous. Je ne pensais pas trouver ces choses-là ici.
Yani Türkiye'de diyordum tamam böyle
En
şeyler
Turquie
vardır
ça
ama
marche comme ça, d'accord,
Fransa'da
mais en
yine haklar
France,
vardır, özgürlük vardır.
il
Yine
y a le
bir
droit,
haksızlık yaparsan ölüm
il y a la
seni geçecekse
liberté.
en kötü ihtimal
Je
sana bir
pensais que si
ceza
tu fumes une
yazarlar.
cigarette, on t'écrit
Başka
une
bir şey
amende, rien
yoktu.
d'autre.
Her neyse ondan sonra
Bref.
üzerime yanıma geldi o da ayağa
Il
kalktı.
s'est approché,
Geldi boğazımı tuttu beni
m'a
duvara
pris à la
vurdu
gorge
böyle. Duvara
et m'a
sert
frappé
vurdum böyle
fort contre le
yavaş
mur.
vurmadım. Duvara
J'ai
vurunca ben
pensé
ilk
le
önce
frapper.
vuracaktım. Yumruk vuracaktım. Bana dedi biz polisiz dedi. Yanımda arkadaşım var. Arkadaşım da
Là, il a dit, on est
bu
de la
adama
police.
müdahale edecekti. Üzerine gidecekti.
Il l'a dit à mon
Yani
ami
beni
aussi qui
korumak
venait pour
için.
m'aider.
Dedi biz polisiz uzak dur dedi. İkisi böyle elimi tuttu. Duvara vurdu beni.
On est de la police,
Biri
éloigne-toi.
de boğazımı tuttu dedi.
Les deux autres
Sen
m'ont
ne
plaqué
demek
les bras au
istiyorsun dedi.
mur.
Siz yabancı hem buraya gelip
Encore
bana
une
ne
fois, il m'a
yapıyorsunuz
dit,
dedi.
qu'est-ce que tu veux dire?
Hem de bize karşı
Quand
beni
vous
de
les étrangers vous venez, ça
suçlamıyorsunuz
fait
dedi.
toujours des problèmes. Et en plus, vous
Boğazımı
parlez
tuttu.
contre nous.
Tabii ben orada
Il serrait ma
konuşamadım.
gorge,
Boğazımı
je ne
sıktı.
pouvais pas du tout parler.
Ondan sonra
Ensuite, la
polis
police, moi je ne
ben
pouvais pas frapper,
vuramazdım
ça aurait
oradaki
été quelqu'un
başkası
d'autre que la
olsa bile
police, j'aurais pu
ki
me défendre.
saldırırdım ben bir şeyler yapardım ama polis olduğunu söyleyince ben bir şey yapamadım. Bir dakika iki
Une
dakika
ou deux
öyle
minutes ont
oldu
passé,
durdu bana
ils
küfür
m'ont
etti.
insulté,
Küfür etti
ils ont
kötü
employé des
kelimeler
grossièretés.
kullandı. Ondan sonra
Il
bana
m'a
dedi
dit,
işte söyle şimdi sen ne
qu'est-ce que tu
istiyorsun
veux?
senin
C'est quoi
problemin
ton
ne
problème?
dedi.
Si tu veux pas
İşte
respecter les lois françaises,
kurallarına saygı
tu
göstermiyorsun
pars
dedi
d'ici.
gidin defolun gidin buradan dedi. Ben dedim ben de
Après qu'il ait
boğazımı
lâché ma
bıraktıktan
gorge,
sonra boğazım
il avait
biraz
un peu
daha bırak
relâché.
oldu.
Avant, il serrait pour
Boğazım biraz
m'étouffer. Il a, j'ai
sabit
dit,
bıraktı dedim. Sen
si tu veux faire
Fransa
respecter les lois
kurallarına saygı
françaises,
gösteriyorsan dedim. Sen de
tu dois aussi les
göstereceksin dedim.
respecter.
Sen sadece
C'est
insanlardan
pas seulement
ya
pour
da
les
yabancılar
étrangers que tu
üzerine
dois faire
kurallarına
respecter
saygı
les lois.
göster
C'est pas
diyemezsin.
possible.
Sen bir şey
Si tu
yapıyorsan
attends quelque
sen ne
chose, toi aussi tu
yapacaksın?
le fais. Les
Kurallara
lois,
işte
toi aussi, tu dois
kanunlara
les
sen de saygı
respecter.
göstereceksin. Tek ben
C'est pas
gösteririm desem
possible que moi
olmaz.
seul je les respecte.
Ben diyorum ki sen
Tu dis
saygı
que si tu les
göster
respectes,
ben
je les
göstermeyeyim.
respecterai.
Olmaz dedim ki senden bana senin
Je veux voir ta
kartını görmek
carte.
istiyorum dedim. Ben senin
Tu me dis
polis
que je suis de
olduğunu
la
nereden
police,
biliyorum?
mais pourquoi je te
Bana
croirais?
dedi
Il
çenenek
m'a répondu,
kapat.
ferme ta
Yani
gueule.
daha önce de çok sefer kullandı. Daha önce de argo kelimeler çok kullandı.
Plutôt déjà, il parlait
Bana
en
bazı
argot, il disait
insana
beaucoup
aşağılayıcı
d'insultes,
kelimeler
il
kullandı.
m'humiliait.
İnsanlarla dalga geçermiş gibi, benimle dalga geçermiş gibi şey yaptı. Diğeri de arada
Pour l'instant, il
üzerime
cherchait
aradı.
dans mes
Üzerimdeki
vêtements.
şeyi aldı. Telefonumu aldı.
Il a pris mon
3 tane
téléphone.
telefon üzerimde vardı.
J'en avais deux dans mes poches.
Bana dedi sen bu
Il
telefonları
a dit,
çalmışsın
ces
dedi.
téléphones, tu
Senin
les as
telefonun
volés. Tes
faktürleri
factures, elles
dedi.
sont où?
Dedim
J'ai
sen
répondu,
telefonların fa sen
les
üzerine
factures
senin
de mes vêtements,
çekmediğin
tu
de
les
fakturanı
veux
ister misin
aussi?
dedim. Yani ben
Si
ne
j'achète quelque
alsam üzerine
chose, il faut que
faktür
j'aie
mü
les
geçeceğim
factures
dedim.
sur moi.
Yabancılara karşı böyle
Contre
bir
les
kanun
étrangers,
mu
il y a une
vardı?
loi.
Telefonum içinde şeyleri aradı. İşte galeriye girdi,
Ensuite, il a
fotoğraf,
cherché dans mon
mesaj
téléphone, les
bölümüne girdi.
photos, les messages.
Yani ben o arada anladım. Sadece problem arıyorlar. Benim üzerime ne
J'avais
bulabilirler?
compris qu'il cherchait juste un prétexte.
Cüzdanımı çıkardı
Qu'est-ce qu'il
cebimden.
peut trouver sur
Cüzdan
moi?
kartımı çıkardı içinden.
Il a sorti ma carte de
Fransız
mon portefeuille.
bir yıllık oturum vardı
Dedans, il
benim.
a pris
Üzerime
ma carte
kartımı
d'identité.
çıkardılar. Ondan sonra ben dedim
J'avais une
eğer
carte de
cezaysa
séjour d'un
cezayı
an.
yazın dedim. Ondan
Ils m'ont
sonra
enlevé ma
bana
carte, j'ai dit,
şeyi sordular, kart
si tu veux
sordular.
me mettre une amende,
Tikemi
mets-moi
sordular.
l'amende.
Tikemi verdim dedi bu
Ensuite, ils
tikenin
m'ont
tarihi
demandé mon
geçmiş dedi,
ticket.
zamanı geçmiş dedi.
Je l'ai
10 dakika
donné,
hadi
il m'a
geçmiş.
dit, ce ticket il est
Ben de
fini, le
dedim
temps est
zaten
passé 10
ben
minutes.
yarım dakikadır buradayım siz beni
J'ai
oyalıyorsunuz. Yarım
répondu,
dakika biz
ça fait
burada
20 minutes qu'on est
bekliyoruz
là,
dedi.
qu'on attend ici.
Sen 20 dakikayı sen tiketten problem arıyorsun dedim. Bir de evet. Baktım şeyi aradı.
Il a appelé le
Kontrol
contrôleur.
gelsin şeye baksın diye. Tike
Il
baksın
cherchait
diye.
quelque chose.
Dedim istediğin yara
Que le
ara dedim
contrôleur
ben
vienne pour regarder
cüzdanımı.
le ticket.
Ondan sonra
J'ai
bana
dit,
dedi ondan
appel, il n'y a pas de
sonra
problème pour
cüzdanım
moi.
ondaydı. Dedim
Il avait
sen dedi
gardé mon
senin cüzdanında
portefeuille.
para
Il
yok
m'a
sen nasıl
dit,
ödeyeceksin dedi.
tu n'as pas d'argent, comment tu fais?
Sen çalışmıyorsun bir şey yapmıyorsun dedi.
Tu
Sen
travailles
nasıl
pas, tu fais
ödeyeceksin
rien.
böyle bir şey dedi.
Comment tu fais pour payer?
Dedim o benim problem sen
J'ai
affedersin
répondu, c'est
beni.
mon problème, ça ne te regarde pas.
Benim
Il parlait
sorunum.
mal, il jurait.
Tabii o arada kelimeler arasında hep de
Il a pris ma
ters
carte,
ters
regardait mon
konuşuyordu. Küfür
téléphone et a
ediyordu.
dit direct.
Kartımı aldı, telefonuma baktı. Dedi sen bu telefonu çalmışsın
Ce
dedi. İşte
téléphone,
şudur budur
si
demedi.
tu l'as volé,
Sen
dis-moi.
çaldın mı bu telefonu? Ne yaptın bu
Tu
telefonu?
l'as
Nereden
volé ce
geldi
téléphone,
sormadı.
qu'est-ce que tu
Direkt
fais avec
dedi
ce
sen bu
téléphone,
telefonu
d'où il vient?
çalmışsın dedi. Siz çalıştığınız zaman
Vous,
dedi
si vous
déclaré'le
travaillez, c'est pas
çalışmıyorsunuz
déclaré.
dedi yabancılar.
Thank you.
Ondan sonra diğeri de kartımı aldı içinden.
Yukarı gitti. Carte,
bir yere aradı, bir yere aradı, bilmiyorum. Kimliğimi almıştı o
zaman. Qui l'a appelé et pourquoi je sais pas. Il avait pris mon identité à ce moment-là. Il appelait avec ma carte. Bien sûr, entre-temps, mon ami était parti chercher un autre ami. Mon ami ne connaissait pas du tout le français. Il était arrivé depuis peu en France. Je lui ai dit, éloigne-toi à part. Aussi, il lui avait dit, pars, dégage. Ils m'ont fouillé de nouveau. Ils ont écrit une amende au sujet de la cigarette.
De
82
euros.
Puis pour le ticket, 150 euros au total que je vais devoir payer. Le contrôleur est venu, un homme est venu. On est allé dans une pièce. C'est là qu'ils ont rédigé l'amende. En ce temps, dans le bureau, ils ont parlé.
On est
sorti. Le flic a dit, dégage de France avec ton métro. Normalement, ils auraient dû mettre leur
brassard.
J'ai dit, moi je respecte la France, toi-même sois respectueux, d'accord ? Je
vais te dire une chose.
Pour moi en France, il y avait quelque chose de libre avant. Il y avait ce concept. Maintenant, cette liberté, je l'ai perdue. Pour moi en France, maintenant, il n'y a rien de libre. Quand j'étais petit, à l'époque, on m'a appris que les policiers aident les gens, ils font quelque chose pour les gens.
C'est ce qu'ils disent.
Mais depuis ce jour, j'ai compris que les policiers n'aidaient pas les gens. Ils créent des divergences. Ils agressent les gens. Ils se cachent derrière l'État. Ils prennent les armes et disent, je suis l'État, je suis grand, je peux te frapper. Ils
ne
savent pas qu'ils sont ici avec notre argent.
Pour
moi, c'est comme ça. De nos jours, depuis que j'ai compris, les policiers sont contre nous. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les polices. Trop de problèmes impliquent la police. Ici, j'ai compris, il n'y a aucune différence avec la Turquie. Partout où il y a l'État, il y a le fascisme. Partout. Bien sûr, depuis que cet incident s'est produit, de temps en temps, 10 à 15 jours se sont écoulés, psychologiquement, j'étais choqué. Je me rappelle tout ce qui s'est passé en Turquie, comment la langue, l'identité, tu peux pas en parler. Ici, j'ai cru que j'avais trouvé la liberté. J'ai oublié une chose que je voulais dire qu'ils m'ont arrêté. Quand j'étais en Turquie, je veux pas dire tous les Turcs, mais il y avait trop de fascistes. On m'a dit une chose, comme le premier ministre Erdogan l'a dit, tu l'aimes ou tu la quittes. Il y avait quelque chose de logique. Soit tu vas aimer ici, soit tu vas simplement partir. Moi, je
ne
suis pas parti pour ça de Turquie. J'avais d'autres problèmes. Au niveau économique, en Turquie, c'était mieux pour moi là-bas. Mais c'est pas simplement un problème économique. Pourquoi je suis venu en France, je n'ai pas expliqué pourquoi. À l'État ou à la police. Je suis communiste, je suis un anarchiste. Pour moi, je suis partout chez moi. Ici ou là-bas, ça ne fait pas de différence. Les États ont dessiné des frontières. Tu
ne
peux pas venir ici, tu ne peux pas aller là-bas. Cette logique, on ne peut pas l'accepter. Avant, il y a eu la guerre. La première fois que ça a commencé. La guerre, ce n'est pas moi qui l'ai créée. D'aucune guerre ne peut naître la paix. Jusqu'à maintenant. Je
ne
crois pas que les policiers qui font la guerre peuvent garder la paix. Je pense vraiment ça. Je me dis à moi-même, pourquoi je suis venu ici? Pourquoi je parle à la radio? C'est vous qui écoutez. Pourquoi je suis venu? C'est pas juste économique. C'est un choix. J'ai dit que je suis un communiste, un anarchiste. D'après moi, comme je l'ai dit, il y a de la place partout. C'est passé du temps jusqu'à maintenant. 15 jours plus tard, psychologiquement, j'arrive pas à me débarrasser de cet état d'esprit. Le même problème en Turquie. Depuis que je suis venu ici, encore le même problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Cette histoire m'a fait une mauvaise impression psychologiquement. Des amis m'ont soutenu à ces sujets, à tous les sujets. C'est pour ça que j'ai pensé que sur toute cette terre, il y a des démons, il y a des anges. S'il y a du positif, il y a du négatif. La vie est organisée comme ça, je ne sais pas.
Et oui, Radio Canu parle des violences policières, parle et reparle de ce qu'on parle pas assez souvent, de ce qu'on parle trop malheureusement quand il y a des morts. Radio Canu 102.2 FM contre les violences policières. J'étais toute seule la nuit. J'attendais le bus de nuit parce qu'il n'y avait plus de métro. J'étais toute seule la nuit, j'attendais le bus. Et je revenais de soirée, alors j'étais un peu pompette. Et puis j'étais aussi en mini-jupe avec des collants trop beaux. Et j'ai craché à mes pieds parce que j'étais enrhumée. C'était l'hiver. Je vois une voiture de flic qui s'approche, mais qui arrive de vraiment trop loin pour que j'ai pu cracher sur la voiture. Et il y a deux gars balèzes qui sortent de la caisse et qui se jettent sur moi. Et en fait, c'était des keufs. Et j'ai mis quelques secondes quand même à admettre que c'était des keufs, parce que deux gars balèzes qui te sautent dessus comme ça... potentiellement, c'est pas les personnes qui sont censées te protéger dans la vie. Donc voilà, c'était des keufs qui se jettent sur moi en me disant « Ah, vous nous avez craché dessus, on vous embarque !» et qui me passent les menottes aussi vite qu'ils peuvent, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas demandé mes papiers, pas demandé... Et donc, je me retrouve dans une voiture de flic haineux. Et je leur dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi vous m'avez mis les menottes? Je commence à paniquer, je commence à dire au secours, ça va pas du tout là. Et je me retrouve au commissariat. Au commissariat, ils arrivent ils m'ont un peu genre déposé là-bas en disant, c'est une dangereuse celle-là, il faut... Je sais pas, occupez-vous-en quoi.
Donc là, c'est les deux qui t'ont amené au commissariat qui te lâchent avec d'autres personnes.
C'est ça, et les autres personnes ne savent pas ce qui s'est passé. Et j'ai beau essayer de leur dire, excusez-moi, mais là, c'est une erreur, j'ai rien fait du tout. Ils s'en foutent et ils se disent que je suis la bonne personne avec qui passer la soirée. Et je me fais tabasser par deux keufs. Entre autres, je me fais tirer les cheveux, taper la tête contre le mur. Au moment de m'enlever les bijoux, je me fais étrangler avec mon collier. Alors j'ai beau dire « Au secours, là, vous m'étranglez, on me répond « J'en ai rien à foutre, c'est bien fait pour toi ». Il y a très peu de place pour les menaces verbales. C'est vraiment directement physique, quoi. Directement, c'est du corps à corps. On m'attrape, on tire par terre, on tape la tête contre le mur. C'est vraiment, il n'y a pas de place pour discuter, quoi. Du début à la fin, j'ai pas pu avoir une discussion avec une personne, quoi. C'était juste, mets ta gueule, vous dites tous la même chose. Oui, d'accord, t'as rien fait, c'est ça. Maintenant, tu vas te la fermer. Si je me plains que j'ai mal, on me dit c'est bien fait. Si je me plains que mes menottes sont trop serrées, c'est pareil, c'est parce que je l'ai cherché. Donc voilà, je me fais allègrement frapper par plusieurs keufs. Et il s'avère que les cellules sont remplies et on ne peut pas me mettre avec des gars. Et du coup, le truc qu'il trouve, c'est qu'il m'attache il me menotte une main au pied d'un banc. Ce qui veut dire que je me retrouve pendant, je pourrais pas calculer le nombre d'heures, mais pendant presque une dizaine d'heures, je me retrouve pliée en deux, enfin assise, pliée en deux avec le poignet au niveau de ma cheville, quoi. Et moi, j'appelle ça de la torture, vraiment, c'était le plus horrible, en fait. C'était non seulement de se faire taper, de se faire insulter, de se faire humilier, mais aussi de te laisser pendant 10 heures dans une position... Ouais, c'est ça, ça s'appelle la torture, quoi. Le lendemain, quand on m'a notifié mes droits, on m'a dit « Bon, alors, mademoiselle, là, vous avez droit à avoir un avocat, un médecin, mais... Et j'ai dit « Ah oui, je veux bien voir un avocat, je veux bien voir un médecin, parce que regardez, j'ai des bleus partout, je me suis fait tabasser. Bien sûr, c'est pas les mêmes équipes, hein, les équipes de nuit, les équipes de jour, c'est pas les mêmes, alors à chaque fois, ce que tu racontes, enfin voilà, on te prend pas au sérieux, quoi. » Mais j'ai dit « Oui, je veux voir un médecin et je voudrais voir un avocat, parce que là, ça va pas du tout, je me suis fait tabasser cette nuit. » Et là, les flics, ils disent « Ben, en fait... si on demande à un avocat de venir, ça va mettre plusieurs heures, vous serez encore là ce soir. Nous, on vous conseille plutôt de ne pas faire cette demande parce que ça risque de prolonger votre garde à vue. »
Et le médecin, pareil.
Le médecin, pareil. Alors, moi, bien sûr, tout ce que je voulais, c'était sortir de là. J'ai donc accepté, mais je ne suis pas non plus, mais je ne suis pas sortie de garde à vue pour autant. C'est-à-dire que je suis quand même sortie de garde à vue le soir. Ce qui... Voilà, donc on s'est un peu moqué de moi. Et sur le coup, on a beau connaître nos droits, on a beau savoir qu'il vaut mieux pour soi de demander un avocat, un médecin, quand on te dit que tu vas bientôt sortir, t'as juste envie de le croire, quoi. Pareil pour l'ADN, quoi. Quand on m'a demandé le prélèvement d'ADN, j'ai refusé une fois, j'ai refusé deux fois, et puis la troisième fois, j'ai dit « bon, d'accord, je veux bien », parce que j'avais bien compris que c'était une façon de sortir, c'était une façon d'abréger cette souffrance. Du coup, quand j'ai pu faire ma déposition, j'ai bien expliqué dans ma déposition ce qui s'était passé, c'est-à-dire que j'avais été tabassée et puis que j'avais rien fait de toute façon, que c'était une, comme on dit, une bavure policière. Et je pense que c'est une erreur d'ailleurs d'avoir dit ça dans ma déposition parce qu'ils en ont, ils ont eu peur et du coup ils ont porté plainte contre moi, ce qui fait que c'est moi qui ai été condamnée à leur verser des dommages et intérêts.
Et ils ont porté plainte sur quoi contre toi ?
Pour coups et blessures. Non, pour outrage, pour avoir craché. Rébellion pour m'être débattue au moment d'entrer dans la voiture. Et pour coups et blessures, quand je me suis débattue alors qu'ils étaient en train de me fracasser la tête contre le mur.
Et eux, ils avaient quoi comme preuve ? Ils avaient des ITT, des...
Non. Non, c'était leur parole contre la mienne. Et lors du procès, ça... Bah lors du procès, ils ont gagné, quoi. Pourtant, c'était ridicule quand on a été comparaître à la barre un des flics qui a porté plainte contre moi et moi. C'était vraiment drôle, l'assistance a ri parce qu'il faisait presque 2 mètres et 100 kilos. Et du coup, je pense que ça lui a plutôt desservi de venir au procès, quoi. C'était ridicule, le juge même, il voyait bien que c'était pas moi qui avais dû lui faire le plus de mal, quoi. Mais pourtant... je sais pas, il m'a quand même condamnée.
Il t'a condamnée à quoi alors ?
À 2 mois de sursis et presque 2000 euros d'amende.
Pendant la garde à vue, ils t'ont plus attaqué sur le fait que t'étais une meuf, sur d'autres choses, sur si t'étais en colère. Enfin, c'était...
En fait, c'était tellement absurde cette situation que sur le coup, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Mais a posteriori, en y repensant, je me dis que... Alors peut-être ils m'ont pris pour une prostituée au départ, parce que j'étais vraiment en mini-jupe et du coup je me suis dit « Ah, peut-être que leur première impression c'est « Tiens, là on va taper de la pute » ou je sais pas quoi. » Deuxièmement, je me dis « Peut-être parce que je suis arabe. » Ils se sont dit « Tiens, une rebeu qu'on va taper aussi, tiens, allez. » Mais en vrai, j'en sais rien. Et j'étais vraiment une meuf la nuit, sans défense, et je me suis faite agresser par deux gars et... Ça correspond exactement à ce qu'on s'imagine d'une agression, sauf que c'était des flics, quoi. C'est ça qui est complètement absurde.
Et ça, cette histoire, c'était il y a combien de temps ?
C'était il y a 2 ans. Le jugement, il a eu lieu 1 an après. J'étais tellement choquée d'avoir du sursis pour cette histoire que j'ai fait appel. L'appel a eu lieu encore 1 an après, ce qui fait que le jugement est tombé 2 ans après les faits.
T'as réagi comment après cette histoire ?
Ben, j'ai cherché... Ben déjà, j'ai été faire constater mes blessures par un médecin. Déjà, ça a été dur. J'ai été voir un médecin au hasard. Et rien que ça, ça a été dur. Parce que le médecin, il dit non, mais moi, je veux pas faire un certificat. Vos traces, je sais pas comment vous les avez eues. Moi, je veux pas qu'on utilise une de mes pièces comme ça. Ensuite, trouver un avocat, c'était compliqué aussi, parce que c'est pareil, je vais voir un avocat, il me dit « ce que vous avez fait, c'est mal, je peux pas vous défendre, ou alors si vous me payez 5000 euros ». Heureusement, on m'a conseillé une avocate militante qui a accepté l'aide juridictionnelle et tout. Et même dans mon entourage, c'était assez dur, parce qu'il me disait « mais en fait, certainement tu l'as cherché, on te connaît ». Certainement tu l'as cherché. Et ça, c'était un des retours qu'on m'a le plus fait. On m'a aussi dit, mais qu'est-ce que tu faisais toute seule la nuit comme ça ? Ça se fait pas. C'est ce qu'on reproche souvent quand on se fait agresser, quand on est une meuf, c'est que vraiment on l'a cherché. En plus, j'avais bu, alors c'est le truc qu'il faut pas dire. C'est, mais qu'est-ce que tu faisais ? T'avais bu ? Bah oui. En fait, j'ai trouvé que c'était difficile, que je devais me justifier, y compris en face de mon entourage, et je trouvais ça dur. Trouver de la solidarité un peu après, quand j'ai commencé à fréquenter des milieux plus militants. Et là, par contre, ma parole, elle a jamais été remise en question. On m'a tout de suite proposé du soutien pour préparer ma défense. On m'a proposé du soutien pour m'aider à payer mes amendes. Et ça, c'est chouette. Ça m'était déjà arrivé de me retrouver en garde à vue, mais jamais dans des conditions pareilles. Et j'ai eu l'impression de perdre tout. Ben, je sais pas comment dire. Je savais qu'il fallait pas signer les papiers, je savais qu'il fallait pas donner son ADN, je savais que j'avais rien fait. Mais après plusieurs heures de maltraitance comme ça, après plusieurs heures où t'es enfermé, où t'es attaché, etc. Et ben, je me suis retrouvée à me dire, bah ouais, peut-être qu'en fait je l'ai cherché, peut-être que je le mérite. Une espèce de honte de soi ou quelque chose comme ça, qui fait que. Ouais, ça en fout un coup quand même, dire.
Le régime de justification du bourreau. Le mot bourreau revêt plusieurs sens. Il peut, dans une acceptation littérale, désigner la personne chargée de l'exécution des sentences qui portent sur les corps des condamnés. On pense évidemment à la peine de mort. De manière plus générale, le mot peut aussi désigner une personne cruelle et est ainsi associé à la figure du mal. Dans d'autres cas, le mot est employé dans des contextes plus légers. L'on parlera alors de bourreau des cœurs pour désigner un séducteur ou encore de bourreau de travail pour désigner une personne qui travaille de manière excessive. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la signification que revêt le mot bourreau dans des deux premiers sens. Le bourreau comme exécuteur des sentences et le bourreau comme personne montrant une aptitude particulière à causer du mal et des souffrances. Dans le premier cas, le mot bourreau désigne l'exercice d'une profession. aucune dimension psychologique n'est attachée à l'accomplissement de cette fonction. Agissant toujours sur ordre de ceux qui détiennent le pouvoir, le bourreau est le modèle type du fonctionnaire qui exécute justement les tâches qu'on lui demande d'accomplir. Dans le deuxième cas, à l'inverse, on insiste sur la dimension psychologique pour désigner une personne qui montre une propension excessive, quasi pathologique, à causer la souffrance d'autrui. Dans ces cas précis, nous sommes dans l'excès. Nous nous situons au-delà d'une certaine norme, qui varie selon les contextes. Dans ce cas également, la qualification même de bourreau est l'enjeu central. Est bourreau celui qui est désigné comme tel? Des débats, le président et ses assesseurs, les policiers et leurs avocats se sont évertués à expliquer à l'assistance que les policiers ont fait simplement leur travail en interpellant Abdelhakim Ajin, ni plus ni moins. Ils ont agi comme de simples fonctionnaires à qui l'on demandait d'exécuter une tâche qui rentre habituellement dans leur domaine de compétences.
Dorsaf, tu fais partie du comité Vérité et Justice pour Hakim Ajimi. Est-ce que tu peux nous rappeler d'abord qui était Hakim Ajimi?
Alors, Hakim Ajimi, c'était un jeune Grafois. Il avait fait des études, chose qui n'est pas facile quand il vient d'arriver. Il a eu son CAP pâtisserie de chez le nôtre. Ensuite, il s'est retrouvé sans emploi, donc assez vite. Et un jour, il va à la banque pour faire un retrait. On ne lui accorde pas le découvert parce que le virement assédique ne s'affichait pas sur son compte, alors que l'assédique avait affirmé le contrat qu'il avait envoyé le virement. Donc, il s'est énervé avec le guichetier qui a fait appel au directeur de la banque. Celui-ci descend. Il s'énerve avec Hakim. Un incident, Hakim repart. Donc, il repart chez lui, sur la route, sachant que la banque est à environ 300 mètres de son domicile. En descendant le boulevard, donc le directeur a appelé la police a appelé la brigade de la BAC. Donc il croise Hakim qui est à 50 mètres de chez lui. Quand il les a vus, il s'est arrêté et il s'est mis contre le mur puisqu'il a vu qu'il est fixe, qu'il est fixé. Un des agents de la BAC est descendu du véhicule. L'autre a fait le tour du boulevard pour rejoindre son collègue. Alors, d'après eux, le collègue déjà sur place aurait attendu l'avis de son collègue. Ils sont approchés vers Hakim, lui aurait demandé de les suivre sans lui donner la moindre explication. Procès verbal à l'appui, hein, c'est les procès verbaux des agents de police. Ils ne lui donnent pas d'explication, ils lui demandent de le suivre. Ils refusent. Ils disent qu'ils demandent donc sa pièce d'identité, ils disent qu'il n'a pas ce papier, qu'il était juste allé à sa banque et qu'ils le connaissent. De là, les agents de police, donc je cite le procès verbal. Le prennent chacun d'un côté des aisselles, sous les aisselles, et essayent de le faire tomber, donc de face au sol. Ce qui se passe, c'est que c'est les deux policiers qui chutent, et pas Hakim, ou alors Hakim tombe, mais se relève plus vite que eux, en tout cas. Il est debout avant eux. À ce moment-là, un des agents de police, qui était blessé, une blessure qui remonte à 2004, et l'effet d'Hakim, c'était 2007, avec le choc de la chute, la douleur se réveille. Et là, se prend je ne sais pas quoi dans leur tête, l'ego qui est piqué au vif, ou l'humiliation, ou la colère, la haine, je ne sais pas, un cocktail détonnant, qui fait qu'il s'acharne sur Hakim, le ramène au sol, il le menotte, donc lui se débat, et ils le disent sur leurs procès-verbaux, il se battait plus pour échapper à notre emprise que pour donner des coups. C'est eux qui le disent. Donc il n'a pas été violent envers eux, il leur a donné aucun coup. Donc ils le mettent à terre, face contre terre. Il lui menotte les pieds et les mains. Un des agents de police de la BAC, et donc ils appellent des renforts, et un des agents de police de la BAC l'étrangle. L'autre est le genou posé sur le dos d'Hakim. Le troisième agent de police des municipaux arrive et se met au niveau de ses jambes, retient ses jambes en arrière. Donc il est dans une position très désagréable. mais Hakim demande à respirer parce qu'il n'arrive pas à respirer vu la pression que l'agent de police fait sur son cou. On n'entend pas, on ne maintient pas le dialogue, alors que lors de la crise d'étranglement, quand elle est pratiquée, il faut maintenir le dialogue pour avoir l'état, pour être l'état de la personne. Chose qu'ils ne font pas. Arrivent ensuite les policiers, les nationaux. Des pompiers arrivent que les badauds ont appelé, parce qu'il y avait quand même 16 témoins hors les policiers. Et sur les lieux, parmi les témoins, il y avait un maître chien qui travaille avec la police de Nice, qui dit « Oh les gars, calmez-vous doucement, là il va mal, je sais comment on fait cet étranglement, et là vous êtes complètement en erreur, c'est dangereux ce que vous faites, il va mourir, il devient bleu. » Qu'est-ce qu'on répond à ce monsieur? On le met dans une voiture de la police municipale et on embarque au commissariat. Une fois que Hakim est menotté pieds et mains face contre terre, il ne bouge plus, il demande juste à respirer, on lui donne des coups de pied, des coups de genoux au niveau des côtes et deux ou un coup de poing. Je cite les procès-verbaux des agents de police. Il y a ensuite une quatrième agent de police de la municipale qui vient, alors qu'ils sont trois sur lui, qui vient et qui dit « Je pose mon pied sur son dos ». Les témoins ne parlent pas de poser le pied sur le dos, parlent d'un coup de pied, elle a levé très haut son pied et là, et a fracassé le dos de Hakim avec. Donc les pompiers arrivent, les badauds les ont appelés pour Hakim. Les pompiers arrivent et là, les agents de police disent « Non, non, non, ne vous occupez pas de lui, prenez notre collègue, il est blessé à l'épaule. » Hakim, une fois qu'il est relevé, il a la tête qui tombe. Les témoins disent « Ils l'ont soulevé, il avait des pieds qui traînaient au sol. » Là, on le met dans une voiture de la police nationale. Il y a un policier qui dit sur son procès verbal, donc en fait, il le jette à l'arrière. Il tombe la tête entre le conducteur et le passager et il a le tronc derrière, au sol, et les jambes sur la banquette. Alors il y en a un plus qui dit non mais c'est pas la peine de le mettre comme ça, là il est calme, il ne bouge plus. Évidemment il ne bouge plus parce qu'il est mort.
Pourquoi il sème la haine, hein? Pas de paix, hein? Pas de paix, hein?
Comment ça s'est passé d'un point de vue judiciaire depuis le décès de Hakim?
Alors, ça a été pendant 4 ans des forums, des manifestations pacifiques, des forums sur 2 jours, des rassemblements. On a dû, donc avec les avocats, maître Henri Leclerc et maître De Vita Franck, la bataille de l'instruction, on n'a pas gagné, on l'a perdu, puisqu'on avait demandé des confrontations, que la police, l'agent de police municipale a demandé aussi, qu'on n'a pas eu, on a été débouté. Notre demande, on a demandé donc coups et blessures et entraîner la mort pour les agents de la BAC. On a été débouté aussi, mais monsieur le procureur de la République a insisté et est allé en appel avec nous pour demander la mise en examen pour homicide involontaire. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, on n'a rien gagné du tout. C'est une mascarade parce que des agents de police qui sont, ou qui que ce soit, qui arrivent devant un juge pour non-assistance homicide involontaire et non-assistance à manger, ils risquent maximum 3 ans de sursis, de prison avec sursis. Enfin, on sait très bien qu'ils vont pas faire de prison. Et on verra ce que ça donnera. Donc, nous, aujourd'hui, la bataille, c'est qu'une étape. Là, ce procès du 16 novembre, ce n'est qu'une étape. On sait très bien comment ça va se passer. Et le combat n'est pas fini. Et surtout, le père de Hakim, c'est que ce procès, ou même les assises, ce qui est impossible, hein, ne ramènera pas son fils. Lui, ce qu'il veut aujourd'hui, ce qu'il demande, c'est la vérité. Et surtout que cet étranglement pour lequel la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme soit interdite.
Pourquoi ils sèment la haine, hein? Pas de paix, hein? Pas de paix, hein?
Alors là, on est avec Boubacar Hajemi, le père de Hakim. Donc, quel est ton sentiment après cette semaine de procès, ces successions d'audiences, notamment avec un réquisitoire du procureur assez léger? Qu'est-ce que tu penses en fait de tout ça après 4 ans de lutte et d'acharnement pour obtenir ces procès?
Voilà, après 4 ans de combat dur, on arrive au procès. Alors, le procès commence. On est maltraité comme au début. Avec le juge là, quand les policiers, on pose des questions aux policiers, mes avocats, c'est le juge qui reprend leur place. Alors on a tout compris, c'est cette mascarade qu'ils sont en train de faire. Alors j'espère que le juge, ils vont faire leur travail comme ça. Comme ça, au moins ils auront la conscience tranquille. Parce que nous, on a fait tout comme il faut, mais ces juges, ils me font peur. Et cette justice là, c'est une justice à double sens. Il y a une justice de première classe, justice de deuxième classe. Alors là, j'espère que ça s'arrête là et tous les citoyens sont considérés comme tout le monde. Et bon, après, après qu'est-ce que le procureur et les amis, après tout ce sorci, tout ça, c'est une mascarade, ça. C'est pas une vraie justice. Avec tous les épreuves accablantes contre eux, il y a l'autopsie, l'expert, le médecin légiste, les témoins. Et là, le procureur de la République demande des sursis. C'est une pièce de théâtre qu'ils ont fait pendant une semaine. C'était pas possible, c'était trop dur pour nous, mais c'est pour ça. Le quatrième jour, on a décidé de partir du tribunal. Parce qu'on ne faisait plus confiance à ce tribunal-là. Et comme les effets, ils passent à grâce, et ils sont tous des amis, alors ils essaient de les protéger comme des premiers jours jusqu'au tribunal.
Les faits semblaient établis, la réalité, enfin l'étude des expertises établissait aussi l'asphyxie. Et pourtant, donc, le procureur qui reconnaissait lui-même ces faits-là n'a requis que des peines franchement ridicules, à savoir du sursis simple déjà pour tout le monde. Sursis simple, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de période de mise à l'épreuve, même si une mise à l'épreuve pour un policier, ça ne veut strictement rien dire. Mais du sursis simple, pas de prison ferme, et du sursis simple n'excédant pas 2 ans, et encore plus grotesque, de simples peines de principe pour les 2 policiers stagiaires qui avaient été sur les lieux. Donc voilà pour le déroulement, on va dire, du procès à proprement parler. Du côté du comité, du côté de la famille, après les réquisitions minables du procureur, mercredi soir, on a décidé, enfin il a été décidé jeudi, d'un commun accord, de quitter la salle d'audience. Donc le père de Hakim, l'Arrahmo, après 5-10 minutes d'audience, n'en pouvait plus d'écouter les plaidoiries des avocats de la défense, donc les plaidoiries des avocats des flics, dire qu'il ne s'était rien passé, que tout s'était passé normalement et que c'était un incident malheureux. Donc du coup, le père a quitté la salle et nous, on l'a suivi, nous qui étions dans les gradins, et avons aussi quitté la salle, en fait, pour montrer que, en fait, depuis le départ, cette connivence-là saute aux yeux, saute aux yeux de tout le monde, tous les soutiens. Et donc du coup, on a décidé d'en prendre, de tirer toutes les conséquences, cette connivence, et les laisser entre eux. Voilà, faites votre justice entre vous, faites le procès entre vous, nous on quitte l'audience, et on vous laisse faire ça entre vous.
On n'a pas à me dire, il faut aller se faire la loi, il faut aller se faire la justice. Non, nous on l'a fait le rapport de force. Et eux ils se sentent forts parce qu'ils ont l'institution, parce qu'ils ont la chaise bien confortable. Et bien regarde, moi je suis debout et j'épuise ma voix et j'ai pas de chaise confortable et je suis digne. Et je ris quand je me couche le soir, je me dis alhamdoulilah, je suis tranquille dans ma peau. Et je veux que toi, ta conscience elle te range. Je veux pas te laisser tranquille. Je vais pas te laisser tranquille. Je vais être là et on va tous être là et on va pas faire un faux pas, mais on va être là. Ah, vous avez fait votre jugement? Eh ben nous on est là. Hein? Appelle comité, parce que nous, notre comité, eh ben il va aller aider le comité Alizéry. Alizéry, 69 ans. Il a construit ton pays, espèce de merde. Oui, c'était des petits condés de 25, 26 ans qui l'ont tué. Toi, t'arrives 25, 26 ans, t'arrêtes un gars de 69 ans, il te dit, dis donc, tu me parles bien, tu me respectes. Hein. Le mec, il a construit le pays. Et il meurt, roué de coups. Et la justice, qu'est-ce qu'elle fait? C'est rien.
Là, on est dans un contexte où on va avoir du mal à être très, très optimiste sur la suite, dans la mesure où, par exemple, on a eu les réquisitions du procureur dans l'affaire Ali Ziri à Paris. Ali Ziri qui est ce retraité qui lui aussi s'est fait arrêter par les flics et qui est arrivé mort au commissariat. Et le procureur dans cette histoire demande la relax pour les flics. Est-ce que vous êtes en lien avec ces gens-là, avec des gens des différents comités vérité et justice qui sont créés à droite à gauche autour de gens qui sont morts à la suite d'arrestations?
Bien sûr, notamment le comité vérité et justice de Lamine Dieng, Ali Ziri, Najib et d'autres encore. Et là, prochainement, samedi, je monte à Clermont-Ferrand pour le comité de Wissam, vérité et justice pour Wissam. Donc oui, on est avec eux en contact. Et d'ailleurs, samedi dernier, lors du rassemblement, il y avait un représentant du comité de soutien justice et vérité pour Ali Ziri. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui a changé, c'est que il y a une sorte d'unité autour des comités de soutien qui est en train de se former. Donc c'est plus, chaque affaire n'est plus que l'affaire de la ville, c'est-à-dire de Clermont-Ferrand, de Lyon, de Paris ou de Grasse. Non, maintenant c'est une affaire nationale et c'est une question de l'étranglement qu'on va traiter de manière nationale et qu'on va imposer d'une manière ou d'une autre, mais toujours pacifiquement, aux politiques d'en parler et de faire une loi par rapport à cet étranglement. Donc oui, on se soutient tous et on va se soutenir tout le temps. Donc le papa de Hakim et Walid Clay, le président du comité de soutien, seront eux à Paris avec le comité de soutien justice pour Ali Ziri samedi. Et moi je serai à Clermont-Ferrand avec le comité de justice, de vérité et justice de Wissam El Yamni.
À l'évidence, pas de paix. Ça fait l'Afrique, ils continuent de la piller. Malgré tout leur fric, ils n'empêcheront jamais de briller. Comme ils empêcheront jamais un homme saint de prier. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur nous, on les a grillés. Et j'ai pas besoin de crier. On est des guerriers, mais on se bat pas pour les lauriers. On mène une guerre dans un monde à part, depuis le départ. On bosse dimanche et jour férié. Là où tu me vois, je ressemble à un choc de culture. Un choc, comme un nez cassé sur une sculpture égyptienne. Une caricature erronée, la dictature n'est pas toujours celle qu'on reconnaît. Même les factures, c'est pas les mêmes pour tous. Y'a pas la même peine pour tous, donc évidemment pas la même haine pour tous. Ils nous font croire qu'il y a les mêmes lois pour tous, mais sans les mêmes avocats, y'aura jamais la même justice pour toi. Pas de justice, pas de paix, vu que dans ce pays, le flagrant délit c'est ton aspect. Pas de justice, pas de paix, en tant que citoyen, j'ai cru que sa police nous protégeait. Pas de justice, pas de paix, hypocrisie, s'ils veulent récolter le respect. Pas de justice, pas de paix, pourquoi ils sèment la haine? Hein? Mais on fera pas la guerre avec des pierres, la guerre des nerfs avec des mecs vénères. Des vrais soldats, pas ceux qui font leur service militaire, pas ceux qui chialent leur mère à la première occasion de le faire. On se passe de ceux qui essayent de nous faire taire, ceux qui nous visent, stéréotypes. Ils parlent beaucoup, mais faut qu'on vous dise qu'ils s'épuisent très vite. Ceux qui nous discréditent, ils nous préparent à l'échec scolaire. Préparent leurs gosses à la conquête du système solaire. Préparent leurs crosses et leurs matraques. Je prépare la guerre à ma manière, puisqu'ils cachent leurs blagues. Quand ils nous chargent, l'état les matchs, donc ils sont couvert. La répression, c'est pense comme eux ou t'as le front ouvert. Et on les voit bouger dans le sens qu'on aime pas. Et comme personne nous représente aux élections, ils s'en balancent qu'on aime pas. Je la prends, leur carte d'électeur. Et maintenant j'attends les mots qui lui donneront de la valeur. Pas de justice, pas de paix, vu que dans ce pays, le flagrant délit c'est ton aspect. Pas de justice, pas de paix, en tant que citoyen, j'ai cru que sa police nous protégeait. Pas de justice, pas de paix, hypocrisie, s'ils veulent récolter le respect. Pas de justice, pas de paix, pourquoi ils sèment la haine, hein?
y a rien qui tourneront. Et alors, les plans qui les élaborent, chacun pour soi d'abord. Et puis ceux qui collaborent, ils se graissent la patte. Y'a ceux qui vendent et ceux qui l'adorent. Je parle de la pilule, j'oublierai pas tous ceux qui se l'adorent. Et ils se la donnent, c'est de la bonne. S'il y a donne, un coup du sort, du soin les jeunes, à la méthadone. Chaque moyen de se foutre en l'air, ils nous les donnent. Et si pour mieux se faire la guerre, il faut des armes, ils seront nos hommes. J'en profite puisque ma voix résonne. Puisque j'ai l'esprit vif, une grande gueule et un microphone. Entre les hommes, ils parlent d'égalité. Si on a tous une chance, on n'a pas tous le droit de se tromper. Pour eux, ça n'existe pas. Les bavures policières, ça n'existe pas. La double peine, ça n'existe pas. Délit de faciès, ça n'existe pas. Éducation de seconde zone, ça n'existe pas. Les erreurs judiciaires, ça n'existe pas. Justice à deux vitesses, ça n'existe pas. Et si tout ça n'existe pas,
on est tous parano, on est fous. C'est ça?
Bah voyons.
Stop, stop. Stop, stop. Pourquoi ils sèment la haine? Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix. Hein? Hein? Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix. Hein? Hein? Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix. Hein? Hein? Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix. Hein? Hein? Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix. Hein? Pas de paix.
Hakim, il a été tué le 10 mai 2008. Le 13 juin 2008, pratiquement un mois après, je me suis fait interpeller par leurs collègues, quoi. La même équipe de BAC, quoi. Que ça a tourné en rébellion par rapport à Hakim Hajimi, parce que moi c'était mon pote et qu'ils ont tué mon pote. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, ils l'ont condamné à la mort, alors qu'ici, il n'y a pas de peine de mort ici en France. Et ils se sont rebellés avec moi. Par rapport à Hakim, quand je leur ai dit que vous avez tué Hakim, ça a chauffé entre nous. Là, ça s'est enflammé entre nous quand j'ai dit que vous avez tué Hakim. Moi, c'est par nerf, je suis parti, j'ai dit, je les ai insultés, j'ai dit vous avez tué mon pote. Et dès que j'ai dit ce mot-là, ils se sont acharnés sur moi, ils m'ont défoncé, quoi. Il faut dire ce qu'il y a, ils m'ont défoncé. Ils m'ont attaché les pieds et les mains, ils m'ont monté dans leur voiture. À chaque fois que je les vois passer à côté de moi, ils me regardent pas. C'est pas qu'ils me regardent pas, ils me regardent d'une manière, on dirait que je suis pas un être humain devant eux. On dirait que je leur ai fait du mal. On dirait que c'est moi qui leur a fait du mal. C'est moi qui leur a tué quelqu'un de leur famille. Alors que non. Et ça marche pour tout le monde, pour tous mes collègues, pour tout. Ici les Grassois, depuis qu'Hakim Hajimi est mort, tous les Grassois, c'est même plus des humains pour eux. Ils regardent même plus ça comme des humains. Ils regardent ça comme de la poubelle devant eux qui passe. Ils en ont tué un, ils pourraient en tuer un autre. C'est ça qu'ils se disent dans la tête. Ils se disent pas. Ils n'ont même pas de regrets. Voilà, ils n'ont même pas de regrets.
Parce que comme ça arrivait à Hakim, comme ça peut nous arriver à nous, comme à nos petits frères, comme à nos grands frères, comme aux proches, comme aux amis, comme voilà, quoi, on a eu cette expérience, ça fait mal au cœur, ça.
Vous trouvez ça normal qu'on vit dans une société qui va tous nous tuer là dans pas longtemps? Franchement.
Pas oublier ça, on est en France, mon pote.
On est en France. On est pire qu'en Tunisie. Même la Tunisie, elle est mieux que nous, là.
Il n'y a plus de justice ici.
Même la Tunisie, elle est mieux que nous, là.
Ou soit c'est nous, on fait la justice, ou soit c'est eux, mais ils la font de leur manière. Et je pense que ça va pas tarder à
exploser.
Déjà, rien que pour Zi et Debouna. Rien que pour Zi et Debouna, ça a explosé dans toute la France. Même ici, ça a explosé. Il n'y avait plus de lampadaires. Les flics, ils se faisaient jeter des ampoules, des œufs dessus.
La police, ils rentraient même plus à la ville. Cette histoire. Si ça se réveille pas d'ici 2-3 mois, je crois que ça va repartir comme à l'époque. Il n'y a que par ce moyen-là qu'on peut se faire entendre. Quoi.
Ils le savent bien que un jour ou l'autre, si ça continue, si ça se repasse, c'est un truc pareil. C'est-à-dire que c'est une même histoire, en fait, pareil que celle de Hajmi, en fait. Et c'est là qu'on va attaquer.
Il y a des flics comme ça qui tuent sans aucune impunité. Des jeunes, carrément, c'est un jeune, comme elle a dit, comment ça s'appelle? Comme elle a dit au micro tout à l'heure, c'était un enfant, c'était un bébé, 22 ans, c'est un bébé. Ouais, c'est un bébé, le petit. Et il est mort. On n'est pas en temps de guerre quand même. On n'est pas en temps de guerre, donc c'est normal que ça fasse un boom. Vous savez, en temps de guerre, ça ferait rien. En temps de guerre, il y aurait plein de morts. Là, non, c'est un mort tué par les autorités publiques. Par les forces publiques. Raison, en fait. Par des gens qui veulent nous faire croire qu'ils sont là pour la justice et pour la paix et pour qu'on se sente bien chez nous. Mais depuis qu'il y a eu ce nouveau système qui est sorti avec... tout ce qui est ministère de l'Intérieur, tout ce qui est droite, tout ce qui est gauche, tout ce qui est tout le blabla qu'on connaît, tout ça, c'est parti dans un autre univers carrément. On vit chez les nazis. Pour vous dire, on est en train de vivre carrément chez les nazis. Là, on est comme des juifs vivant en Allemagne en 1930. Vous savez, c'est ça. Là, on est en train de se sentir comme ça ici en France. Et ça va pas tarder à devenir une guerre ici. Ça va pas tarder à devenir une guerre parce qu'il n'y a pas que le petit Hakim qui est mort. Il y a le petit à Saint-Étienne qui est mort dans sa garde à vue. Que soi-disant, les caméras n'ont pas vu à cause des vitres qui étaient rayées ou qui étaient... qu'on voyait pas trop bien, voilà, qu'on voyait pas trop bien derrière les vitres. Mais ils se prennent pour qui? Le petit, est-ce qu'il paraît il est mort pendu? Mais à mon savoir... Quand on rentre en garde à vue, ils nous laissent même pas notre pantalon, ils nous laissent même pas nos chaussures, ils nous laissent même pas un lacet pour se pendre. Comment voulez-vous qu'un gars il se pende en garde à vue? Va chercher la réponse, aucune réponse. Les barrages routiers qu'ils font, regardez, il y a un gars qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il a foncé dans un barrage routier, il s'est fait tirer dessus. C'était quoi? C'était un petit, il était ignorant. Et c'était un gars qui avait voulu une voiture, qui lui a tiré dessus dans la voiture. Mais franchement, moi j'écoute ça tous les jours. Mais carrément, tellement qu'on l'écoute de tous les jours qu'on prend ça normalement. Moi, on dirait que c'est normal pour nous. On dirait, bon, il y a lui qui s'est fait buter, il y a lui qui s'est fait buter. Et moi, si je vois quelqu'un, par exemple, des collègues à moi, là, ils se font tuer, là. Un gars qui rentre dans un barrage et qui se fait tirer dessus par des flics. Moi, les flics, je les vois pas en uniforme. Moi, les flics, je les vois, c'est des bandits.
Du procès de grâce, du procès des policiers. Vendredi dernier, donc le 24 février, c'est tombé. 4 lax pour l'équipage de la police nationale, 6 mois de sursis pour un policier municipal et 18 et 24 mois pour les 2 agents de la BAC. Et aujourd'hui, il y avait un rassemblement des policiers qui étaient choqués, soi-disant, par le verdict devant les commissariats de Grasse et de Nice. Et hier, tous les membres de la BAC de Grasse ont collectivement démissionné pour protester contre, soi-disant, la dureté du verdict. Et dans les tristes petites annonces de la routine du maintien de l'ordre, on voulait signaler aussi que le tribunal de Fribourg a récemment blanchi le policier qui a assassiné un jeune de Vaux-en-Velin qui s'est fait assassiner en Suisse par un policier qui s'appelait Umut Kéran. Que hier, il y a un camarade italien poursuivi par les keufs qui délogeait une occupation dans le Val Susa dans le cadre de la lutte contre le TGV Lyon-Turin. Il est entre la vie et la mort en ce moment même. Et que le 15 mars, c'est la journée internationale contre les violences policières. Et qu'il y aura probablement des rendez-vous à guetter, notamment autour de Clermont-Ferrand et de la mort de Wissam El Yamni, abattu par la police le 1er janvier. Et malgré tout, on vous souhaite une bonne soirée.
Et on voulait dire que le texte sur les bourreaux est issu d'un texte de Rafik Shekat qui a été écrit après les procès à Grasse. Et le texte s'appelle « Hardcore jusqu'à la mort ».
Et on laisse le dernier mot aux avocats des policiers au procès de Grasse, dont l'une a dit que la justice ne doit pas être une justice de paix sociale et qu'on se le tienne pour dit.